Yannick et Geneviève de la Confédération Paysanne au micro de Fréquence Mistral pour nous parler des mobilisations. Quelle réponse attendez-vous du pouvoir politique ?
On est à plus d'une semaine de lutte, donc comment ça s'organise concrètement ? Quelles sont les revendications et les relations avec les autres syndicats dans les Alpes-de-Haute-Provence ?
Alors avec les autres syndicats, même au niveau national, on partage à peu près le constat de la crise. Vous savez, c'est une crise qui vient de loin. Si elle est émergée dans le sud-ouest, c'est pas pour rien. C'est que du coup, là-bas, ils se sont pris quand même un paquet de catastrophes, hein, entre la grippe aviaire, la fièvre hémorragique bovine et puis la sécheresse, les tempêtes et les inondations. On peut comprendre que lorsqu'on a une marge réduite, ça explose. Dans le 04, on est conscient, et je crois qu'on en est tous conscients, qu'on est plutôt protégé, même on va dire presque les Alpes, les Provence-Alpes Côte d'Azur. C'est qu'on a gardé une agriculture qui est encore proche de l'agriculture paysanne telle qu'on l'a définie avant. C'est-à-dire qu'on a encore pas mal, la majorité des exploitations agricoles qui sont plus ou moins indépendantes des circuits de grande distribution. On a aussi des conditions climatiques qui sont un peu plus favorables, même si on se prend de la sécheresse. On a eu les constats de la station météo à l'automne. En fait, nous, on est déjà à plus de 2 degrés, hein, par rapport au climat, alors que les projections nationales, c'est plutôt horizon 2030. Nous, on y est déjà. Donc, effectivement, il faut s'adapter. On a aussi des épisodes cévenols qui mettent en péril, que ce soit le maraîchage, on l'a tous vécu l'année dernière, ou même les céréales. Après, avec les FNSEA et les autres syndicats, bon, on reste d'accord sur le constat de la crise. On reste d'accord sur le fait qu'il faille changer profondément les choses. Il faut quand même bien s'ajuster et faire de la pédagogie en ce moment sur ce qui est demandé. Les normes environnementales qui sont là pour protéger notre santé et notre outil de travail, que sont le sol, l'eau, la biodiversité. Par contre, il faut nous donner les moyens de pouvoir les appliquer. C'est là où ça coince. Après, par contre, on entend moins dénoncer les normes industrielles ou issues de l'industrie ou issues des gros élevages qui, elles, posent des problèmes. Par exemple, les épisodes de grippe aviaire qui imposent des confinements aux volailles. Lorsqu'on est en vente directe ou en volaille de plein air, ben, du coup, là, ça pose de gros problèmes. Y compris économique. Donc là, on a des normes qui sont issues d'énormes sites de production qui effectivement cumulent les problèmes et peuvent avoir vraiment des conséquences néfastes et qui sont appliquées sur des petites fermes. Là, c'est le même profil pour les abattoirs. Lorsqu'un abattoir passe 200 000 tonnes de viande par jour, on peut comprendre qu'il y a des normes drastiques. Lorsqu'un abattoir multi-espèces comme celui de Digne passe 20 tonnes par jour ou 10 tonnes par jour, ben là, peut-être qu'il faut adapter les normes. Il y a beaucoup de revendications qui se focalise sur les tracasseries administratives. Effectivement, là, on a un peu un décalage entre des choses qui sont logiques. Lorsqu'on met de l'argent public sur des développements de certaines choses, c'est normal qu'il y ait un suivi. Par contre, après, il y a quand même un décalage entre la demande et comment ça se traduit sur le terrain. La dématérialisation, c'est une grosse catastrophe. Il y a des choses qui ne sont pas du tout formatées pour les agriculteurs. Effectivement, si on passe au crible l'ensemble des choses auxquelles on doit répondre, parfois ça devient kafkaïen. Vous savez qu'on est dans un département où la prédation est assez importante. On a besoin de chiens de protection. Au-delà de 9 chiens, on a l'obligation de faire une déclaration et de se mettre aux normes pour un établissement classé, installation classée pour l'environnement. On passe à travers les clous, mais si on a un contrôle, eh ben on peut avoir des lourdes sanctions. Et c'est une procédure assez lourde. C'est des installations classées pour l'environnement, c'est des poulaillers de 30 000 poules, quoi, à côté. Les préfets nous demandent de remonter tout un tas d'exemples. C'est un catalogue de 3 pages qu'il faut faire, parce qu'effectivement, il faut regarder concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain, et puis adapter. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut simplifier à outrance. Moi, les simplifications que nous a proposées Gabriel Attal, c'était quand même plutôt des simplifications pour aller vers l'agrandissement et pour faciliter les installations d'agriculture, d'agricole industrielle. Donc ça, c'est un peu compliqué. Les propositions de donner la main au préfet dans les départements, il me semble que c'est tout sauf de la simplification, parce que du coup, chaque département va se retrouver avec ses propres règles. Ce qui fait que d'un département à l'autre, on ne va pas appliquer les mêmes règles, ce qui va encore nous compliquer les choses. Et qui va amplifier la concurrence entre les départements, entre les territoires. Est-ce qu'on veut de la spécialisation des territoires, comme c'est un peu le biais, c'est-à-dire que ceux qui sont spécialistes de la poule, ils vont faire que de la poule, et ceux qui sont spécialistes du cochon, ils vont faire que du cochon. On voit ce que ça donne en Bretagne. C'est quand même pas des résultats très, très cohérents, quoi. Après, quand il y a des demandes de simplification, par exemple, sur les jachères, il faut quand même comprendre ce que c'est une jachère. C'est que c'est des terres qui sont mises au repos. parce qu'il y a besoin de repos et d'espace pour la biodiversité. Et en fait, c'est le résultat direct de la spécialisation des territoires. Ce qui demande des jachères, c'est des céréaliers qui n'ont plus d'élevage. Ceux qui sont en élevage, ils n'ont pas de problème avec les jachères. Parce qu'on a des prairies permanentes, parce qu'on a des prairies temporaires et parce qu'on a une rotation et une diversité de cultures. Donc en ce moment, tout bouge. Et c'est comme moi, j'ai travaillé en montagne avant, et quand il y a une avalanche, c'est tant qu'elle bouge qu'on peut faire quelque chose. Une fois que c'est fini, c'est figé. Et voilà, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de prendre langue et de pouvoir apparaître pour que le résultat ne soit pas pire que ce qu'on a eu avant et de ce qui nous a amené à la catastrophe. C'est un peu comme l'histoire du revenu, il faut repartir de la base. Globalement, et c'est ce qui s'est passé pour les gilets jaunes et ce qui se passe pour beaucoup de crises, c'est que on a une droite économique ultralibérale qui a tendance à éradiquer les solidarités, notamment celles de l'État. Solidarité et maintien d'un cadre qui permet de vivre ensemble. Donc on les réduit au maximum et on se retrouve à une compétition de tous contre tous. Et à un moment donné, lorsque ça nous tombe dessus, en tant que citoyen ou en tant que professionnel, il faut bien qu'on trouve un ennemi accessible. Et du coup, on se retourne vers la droite identitaire. Je préfère dire droite identitaire qu'extrême droite. Ça me semble un peu plus précis et ça correspond un peu plus à l'actualité. Donc là, il faut vraiment faire de la pédagogie et expliquer d'où viennent les coups et savoir vers qui se retourner. Et pas se retourner facilement vers un ennemi intérieur, que ce soit les fonctionnaires, les écologistes ou les immigrés. C'est toujours assez facile de se trouver un ennemi intérieur à portée de main, alors que l'ennemi est ce qui nous met dans cette situation. De prise en tenaille en plus, parce que la droite, les politiques ultralibérales, elles sont en train de se confronter de manière de plus en plus évidente aux limites de la planète et au réchauffement climatique. Et du coup, les solutions apportées, c'est à chaque fois encore un peu plus de libéralisme et ça fait à chaque fois encore un peu plus de détresse dans la société. Donc là, effectivement, la réponse, c'est pour ça que je disais, on partage le constat sur la crise. Par contre, il faut vraiment bien avoir les idées claires sur les choses qui nous ont amené, les décisions politiques et qui nous ont amené à ce point, pour que sortir de cette crise ne nous amène pas, enfin, n'amplifie pas encore ses effets.
Vous attendez donc des réponses aujourd'hui de la puissance publique. À votre avis, de quelle échelle ça doit venir? On a un peu parlé, il y a des spécificités territoriales. Est-ce qu'on attend de l'ultra-local, du national, de l'européen, où il y a peut-être plusieurs réponses?
Évidemment, il faut se mettre dans la tête du gouvernement. Il faut des réponses choc qui aient des effets immédiats. Ça, c'est clair. Donc là, il y a du boulot, parce qu'effectivement, la liste, ce serait une liste à la Prévert qui couvrirait plus que 4 pages sur les améliorations et les problèmes auxquels chacun d'entre nous est confronté. Certains moins que d'autres, mais de toute façon, on y est tous confrontés sur la multiplicité des contrôles, les décisions qui sont contre-productives et puis les injonctions contradictoires. Nous, ce qu'on aimerait, ce serait quand même d'avoir des décisions de réorientation de politique à long terme, à moyen, court et long terme, enfin court, moyen et long terme, qui soient claires et qui nous expliquent effectivement comment, voilà, qu'on revienne à la base, c'est-à-dire comment on construit un revenu, comment on utilise l'argent de la PAC. La PAC, par exemple, c'est une politique agricole commune. Donc on peut dire qu'il reste de l'agricole, mais en termes de politique, c'est un peu moyen quand c'est juste de l'aide aux revenus et que ça va, il y a 80% qui va à 20% des exploitations. Et le commun, on peut dire que ça commence à être un peu mis à mal. Ça ressemble plus à un partage du butin qu'à une politique agricole commune. La révision du plan stratégique national, donc, qui oriente la politique agricole commune en France, bah, du coup, ça peut se faire à mi-parcours, donc c'est l'année prochaine. Donc peut-être que des annonces sur une discussion large et étayée sur cet aspect-là, puisqu'on mène une politique avec de l'argent. Là, on a la chance de pouvoir la mener avec de l'argent qui ne vient pas de la France, mais qui vient de l'Europe. La sortie des accords de libre-échange, évidemment, mais on est bien conscient, en tout cas, et je pense qu'il faut le dire et le répéter, parce que c'est là où la droite identitaire va avoir des réponses simplistes. Sortie des accords de libre-échange, ça ne se fait pas en un instant et ça ne se fait pas sans mal. Donc il faut vraiment poser les bons éléments et puis voir comment on peut au niveau européen, puisqu'on a la puissance possible, c'est dommage qu'on ne l'utilise pas, pour pouvoir imposer notre façon de voir l'économie. La concurrence intra-européenne, ça aussi c'est compliqué parce qu'on a une constitution européenne qui nous bloque parce qu'il faut l'unanimité pour en sortir ou pour bouger. Je ne dis pas de sortir de l'Europe, hein, mais sortir de cette constitution. Par contre, il y a des éléments qui sont possibles, notamment notre proposition de prix minimum d'entrée qui, à mon avis, il faut juste un peu de courage politique pour que ce soit compatible avec les traités européens. Surtout, vu l'urgence, on a parlé de l'Ukraine, et puis il n'y a pas que la France qui s'enflamme au niveau agricole. Donc, vu l'urgence, il y a possibilité de tordre un peu le bras aux traités européens. Donc ça serait une réponse qui serait à relativement court terme et qui pourrait redonner un souffle à l'agriculture et qui pourrait calmer les colères paysannes. Après, il y a vraiment un effort de pédagogie sur les normes pour expliquer pourquoi on les met en place et de quelle manière. Après, il faut les adapter parce qu'effectivement, il y en a qui sont complètement contre-productifs, qui sont, on va dire, elles vont amener des réponses, par exemple, au réchauffement climatique, si on regarde de loin, par exemple, on va prendre les exemples des crédits carbone. Crédit carbone, c'est la réponse ultralibérale pour réduire le carbone, mais en fait, ça n'a aucun effet sur le terrain. Ça a juste un effet de on va créer des crédits, des produits financiers, quoi. C'est des échanges, c'est des nouveaux produits financiers. Les crédits biodiversité sont la même. Et nous, sur le terrain, on se rend bien compte qu'on continue à aller dans le mur avec des décisions pareilles, qui nous sont présentées comme étant des décisions de base et qui nous permettent de respecter les accords de la COP21, etc. Donc il y a un gros boulot. Enfin, je pense que M. Attal doit retourner à l'école.
Qui va défendre l'opposition dans les élections européennes ?
Que je suis souvent amenée à être au niveau européen pour la Confédération paysanne dans la coordination européenne Via Campesina, qui est notre mouvement européen. Au niveau européen, notre mouvement, c'est la coordination européenne Via Campesina. Donc il y a la Confédération paysanne et il y a une trentaine d'autres organisations pour défendre nos intérêts au niveau européen, de tout pays, enfin d'une vingtaine de pays européens, mais pas seulement dans l'UE, un petit peu aussi d'autres pays. Et alors, donc on se bat au niveau européen et dans les différentes politiques quand elles se mettent en place, sur la PAC, sur la politique alimentaire, sur la question donc qui ont été abordées par Yannick. On travaille avec les députés, puisque ce sont évidemment eux qui ont la codécision et qui par moment doivent se décider. Pardon ? Avec qui on travaille ? Alors, il faut en général travailler avec le plus possible. Alors, globalement, concrètement, on travaille beaucoup avec la gauche, avec les Verts, avec les socialistes, quelquefois avec aussi un petit peu Renew, Renew, c'est le parti centriste, où sont les macronistes actuellement ? Parce qu'ils sont très variables selon les pays. Donc il y a un peu de tout dedans. Avec certains centristes. Alors beaucoup moins avec la droite, le PPE, puisque là c'est le parti de l'actuel président de la Commission européenne, qui sont une droite classique dédiée plutôt aux affaires, au libre-échange, et qui sont plutôt dans l'idée que le libre-échange, c'est ça qui fait la prospérité européenne. Après, il y a les partis plus de droite ou identitaires avec qui on n'a pas de relation particulière et qui souvent ne votent pas du tout dans le sens qu'on espérait. Puisque par exemple, la politique agricole commune, comme elle s'est décidée à la fin, qui a été refusée par les Verts, par la gauche, par une bonne partie des socialistes, a été validée par l'extrême droite. Il y a une différence entre le niveau européen justement et le niveau local. Donc on a une bagarre ici au niveau local, c'est pour faire comprendre nos positions. Et on a la même bagarre au niveau européen pour faire comprendre nos positions et dire que par exemple, si on veut de la protection, si on veut sortir des accords de libre-échange, c'est pas parce qu'on est opposé aux étrangers, c'est parce qu'on pense que la souveraineté alimentaire, elle doit se faire au niveau local, au niveau des territoires. Les citoyens, ils doivent pouvoir choisir ceux qui veulent manger localement et avec des producteurs locaux. Et que ça doit être généralisé. Alors parce qu'il y a plein qui, comme ici, qui font des efforts pour que ça marche. Mais au niveau global, même la Roumanie, quand elle est rentrée, par exemple, dans l'Union européenne en 2004, des producteurs locaux, ils se sont vus arriver des supermarchés français, allemands, et ils ne pouvaient plus vendre leur production. Donc nous, on revendique que c'est le droit pour toutes les populations locales de s'approvisionner par rapport à leur production locale, nationale. Et alors que l'Union européenne, son principe, c'est un marché unique européen et avec une concurrence interne, comme Yannick a bien décrit, c'est que si vous avez des produits espagnols qui arrivent avec un moins-disant social, moins-disant sur les produits phytosanitaires utilisés, et on est en concurrence déloyale. Donc on a besoin d'un protectionnisme vraiment pour avoir une production locale avec des paysans nombreux. Donc on défend la même chose au niveau européen. On n'est pas majoritaire, mais en même temps, les idées, on pense qu'elles sont majoritaires. Donc c'est là où on est très ambitieux, c'est on pense que nos idées sont majoritaires, qu'elles ne sont pas représentées majoritairement. Quand on parle des lobbies européens, ce n'est pas une légende. Et ils sont là, ils sont présents en permanence. Quand notre organisation va manifester jeudi à Bruxelles, pour venir, il faut payer le billet de train, c'est difficile, il faut y aller en tracteur. Pour les Belges, ils vont venir en tracteur, mais nous, on a des petites, enfin, on n'a pas non plus des très gros tracteurs généralement. Donc, on a vraiment un travail aussi pour être présent là-bas. Oui, c'est peut-être pour préciser que Via Campesina, alors au niveau européen, on représente peut-être des centaines de milliers de producteurs. Au niveau international, on est 200 millions de producteurs et de productrices. Et que là, alors, on se sent fort et fier d'appartenir à ce mouvement. Et qu'on voit bien que nos politiques européennes, elles ont un gros impact sur les pays du Sud. Et c'est pour ça, par exemple, que alors qu'il y a des négociations pour le Mercosur, donc avec l'Amérique latine, des petits paysans argentins sont aussi contre le Mercosur. Parce que pour eux aussi, pour les gros producteurs qui vendent du soja, c'est très bien. Mais pour les petits qui voient étendre les grandes propriétés, c'est tout à fait négatif. Donc en fait, nous, on défend les petits producteurs à travers la planète. Et on pense que nos propositions sont à même de défendre les petits, les moyens, beaucoup mieux que d'aller dans tout l'agrandissement qui est la tendance générale à travers le monde. Oui, nos propositions sont importantes et c'est localement, je pense que c'est un renforcement de savoir qu'on est représenté au niveau global. Juste un exemple, par exemple, au niveau européen, face à tous les problèmes, Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission, a lancé un grand débat stratégique sur l'avenir de l'agriculture. Elle va arrêter dans 6 mois, elle lance ça. Elle invite tous les partenaires à discuter. ECVC en fait partie. Donc ECVC, c'est l'organisation européenne. Mais le COPACOGECA aussi, ça c'est la FNSEA au niveau européen. On est tous invités pour trouver un consensus. Bon, c'est un petit peu tard, on va voir un petit peu ce que ça peut donner, mais ça veut dire que la réflexion sur l'avenir, elle touche un peu tout le monde dans tous les espaces. Et que c'est vraiment très important de porter des propositions ambitieuses comme le fait Yannick. On veut mettre en cause le libre-échange en agriculture parce que ça c'est destructeur pour tout le monde en France et aussi au niveau des petits producteurs du reste du monde.
Vous dénoncez la schizophrénie des normes et des discours politiques. D'un côté, il y a une défense du modèle agricole français. De l'autre, il y a une libéralisation des normes de libre-échange qui viennent donc finalement attaquer le modèle agricole français. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Une explication qui serait intéressante et une arnaque idéologique qui est souvent reprise. Il faudra quand même qu'on nous explique comment on peut demander à sortir des normes environnementales et dans la même phrase, demander à sortir des accords de libre-échange, alors que ces mêmes accords de libre-échange visent à supprimer les normes. Ou comment on peut monter en exemple l'exemplarité du modèle agricole français, et puis de demander à le mettre en concurrence avec des fermes d'Amérique latine. Soit on maîtrise notre modèle, et on en est fier et on le préserve, soit on éradique les normes, mais alors à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire d'être contre les accords de libre-échange, puisque c'est leur objectif. Et ça, c'est une arnaque psychologique ou idéologique qui est facilement présentée. On a dans la même bouche et dans la bouche des mêmes partis ou des mêmes revendications de sortir des normes et de sortir des accords de libre-échange. C'est complètement contradictoire. Pourtant, c'est effectivement facile, entendable. Parce que les accords de libre-échange, c'est une action sur le prix et que les normes, c'est une action sur, effectivement, on nous empêche de travailler. Il faut le diffuser et l'informer, parce que, M. Attal nous a presque dit que les revendications des centrales syndicales nationales allaient contre l'intérêt de la majorité des paysans et des agriculteurs paysans. Sur le gasoil non routier, donc c'est le gasoil qu'on utilise dans l'agriculture. En ce moment, on a une exonération fiscale de 50 centimes à peu près par litre. Et il y a une harmonisation européenne qui est prévue par tous les pays, c'était un peu le départ de la grogne aussi en Allemagne et ailleurs, de rattraper ces 50 centimes en 10 ans. Ça veut dire qu'on va payer petit à petit plus de taxes sur le gasoil non routier pour le payer au même niveau que le gasoil routier. Ça représente une manne de 1 milliard d'euros à terme. 1 milliard d'euros, je vous rappelle, en face, c'est 9 milliards d'euros la PAC, donc c'est quand même pas rien. Les centrales syndicales, enfin pas la nôtre, ont négocié avec le gouvernement que l'ensemble de ces 1 milliard d'euros seraient redistribués à l'agriculture. trois items. Le premier, c'est soutien aux biocarburants. Grosso modo, le groupe Avril, dont le président est Arnaud Rousseau. Ça ne va pas aller à tous les paysans, c'est clair. Le deuxième, c'est l'exonération de la taxe sur la plus-value, augmentation du plafond d'exonération de la taxe sur les plus-values à 470 000 euros par an. L'exonération de la taxe sur la plus-value, c'est que lorsqu'on a amorti un investissement, comptablement, il ne vaut plus rien, zéro. Pourtant, on peut quand même le revendre encore, un tracteur à 100 000 euros, au bout de 10 ans, on peut quand même le revendre 50 000 euros. Ça, c'est une plus-value qui est taxée. Et en fait, le deuxième item de ces 1 milliard d'euros, c'est l'exonération de cette taxe. Donc certaines grosses fermes qui deviennent des industries font leurs revenus là-dessus, sur l'exonération fiscale. Et le troisième item, c'est l'augmentation du plafond du micro-BA. Donc on va donner des miettes. Micro-BA, c'est le micro-bénéfice agricole. Qui est utilisé en général par des petites fermes, puisque le plafond du chiffre d'affaires, c'est 80 000 euros. Donc voilà, c'est des petites fermes individuelles. Donc voilà la grosse arnaque qu'a démonté Gabriel Attal lors de ses annonces. Le malheur, c'est qu'en même temps, il a annoncé qu'on abandonnait l'harmonisation des taxes sur le gasoil. Et ce n'est pas ça qui va nous faire sortir des énergies fossiles.